Alors, on va passer à la section des questions. Donc, je sais que je pense qu'il devrait y en avoir quelques-unes qui vont se jeter sur la
table. Je peux ouvrir. Bon. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, j'ai quand même une question. La question, par exemple, si on prend le Hanukkah Gate, comme l'a appelé tout à l'heure Alexandre, tu dis, ce qui a paru scandaleux, c'est l'espèce de transgression qu'a illustré mon attitude en critiquant le président de la République. Mais est-ce que tu t'es demandé si la base de la communauté juive souscrivait à tes critiques et si peut-être elle ne se réjouissait pas au contraire de voir allumer une Hanoukia à l'Élysée ? Pour élargir ma question, quel est le type de relation que tu entretiens avec la base de la communauté juive ? Parce que les institutions, c'est une chose.
Oui.
L'intervention hyper intellectualiste du CRIF, c'est une chose aussi. Ta propre position, un judaïsme, enfin disons, une représentation informée, savante, habile politiquement, c'est une chose. Mais d'autre part, ne pas perdre le contact avec les juifs ordinaires, ceux qui fréquentent les synagogues et ceux qui ne la fréquentent pas, etc. Est-ce que c'est une préoccupation à laquelle, enfin, que tu te poses et à laquelle tu arrives à répondre ?
C'est une vraie question. Je pense que l'inconscient de tous les dirigeants juifs, quels qu'ils soient, c'est de se dire comment on évite la position de juif de cour, quoi. Donc, comment on échappe à un moment donné cette déconnexion qui fait qu'on se retrouverait davantage tenu par la relation ou l'échange avec les puissants que la relation et l'échange et la légitimité donnée par le mandat qui vient de la base. Après, donc d'abord c'est une question, enfin me semble-t-il, d'abord d'éthique personnelle de chacun, d'essayer d'échapper aux positions de connivence. Moi, personnellement, par exemple, j'ai pas de fascination pour les puissants ou les gens connus. Enfin, je sais même pas trop quoi en faire, en fait, de la notoriété des gens. Non, mais c'est très étrange comme formule. Ça m'encombre, voilà.
Mais que la justesse ou l'équilibre, oui, de ta position puisse contredire le souhait ardent des simples, si je,
oui,
puis dire.
Mais d'abord, alors il y a plusieurs. Y a un autre point après qui, moi, est pas important, c'est que faut pas non plus projeter sur la base communautaire, enfin faire des projections qui n'ont pas de entre guillemets de base scientifique. C'est-à-dire que on est très tenté par définition, comme toutes les bases, de se dire que la base est bête, inculte, ce que tu veux. C'est pas, enfin, je pense que c'est pas vrai. Moi, je pense qu'on doit faire le pari quand même à la fin de l'intelligence collective de la base, que ce soit quand on parle de la communauté juive, quand on parle des Français, il y a quand même une forme de bon sens qui, je l'espère, à la fin l'emporte toujours. Je peux me tromper. Il y a des moments où peut-être il l'emportera pas, mais quand même, il y a une forme de sagesse comme ça. Alors la sagesse chez les Juifs, elle peut venir de plein de choses. Elle vient aussi de réflexes un peu ataviques, hein. Moi, je pense que sur cette question-là, et je l'avais ressenti puisque je m'exprime le lendemain matin. Pour être totalement transparent sur le sujet, si j'avais pu éviter de m'exprimer, j'aurais évité parce que c'était délicat de venir pointer quelque chose, y compris par rapport au gravin de France. Enfin, voilà, j'ai pas cherché à le faire. Il s'avère que, et d'ailleurs, j'ai pas réagi le jeudi soir, parce que ça se passe le jeudi après-midi. Le jeudi soir, j'ai pas réagi sur Twitter, qui est quand même le canal aujourd'hui pour le faire. Il s'avère que j'ai été invité le lendemain matin à m'exprimer chez Jean-Jacques Bourdin sur un tout autre sujet, qui était un sondage qu'on avait publié sur les Français et le 7 octobre. Voilà. Et bon, bah, ce rendez-vous, cette interview étant calée, je ne pouvais pas l'annuler à 22h en disant « Désolé, j'ai pas envie de répondre à une question que vous allez certainement me poser ». Donc j'y étais, et la question s'est posée évidemment naturellement. Voilà. Et dans ce moment-là, moi, je dois dire que sur plein de sujets, je suis surpris par le réflexe des Juifs, je dis forme d'atavisme assez profond, parce qu'en fait, c'est un réflexe de protection, de se dire on n'a pas demandé à être exposé plus que ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a à gagner, ce qui traverse les Juifs, se dire qu'est-ce qu'on a à gagner à ce qui est un allumage à... Évidemment que dans l'absolu, on est très content d'être davantage reconnu. d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner à ça ? Le réflexe premier, c'est de dire on fait comme on l'a toujours fait, on n'a pas besoin de ça, on se débrouille sans. Donc j'avais quand même, quand je me suis exprimé, je savais que le mainstream communautaire était quand même un peu méfiant. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était dans un contexte politique qui n'est pas totalement neutre, c'est qu'on est dans une séquence où il y a une forme de distance qui s'est installée entre la communauté et les positions du président de la République à cause de ces évolutions sur la question d'Israël, son absence à la marche, et pas, en fait, c'est pas l'absence en tant que telle à la marche, c'est la justification donnée, et on peut y revenir, qui moi m'a paru gênante, et qui en fait est la même question que la question de la laïcité. En fait, quand on réfléchit bien sur la séquence, il est absent à la marche. C'est son droit, et puis il peut même y avoir une logique que je peux parfaitement comprendre. En revanche, la justification qui est donnée, c'est une justification qui vient cristalliser et acter une grille de lecture communautaire de la société, lue par un prisme religieux. C'est même pas du communautaire, c'est même culturel, c'est du communautaire religieux. Bon. C'est renforcé par le fait que le lendemain de la marche, le choix de l'Élysée, c'est de recevoir les cultes. Mais un problème d'antisémitisme ou de haine en France, pourquoi recevoir les cultes ? Il aurait pu recevoir des victimes d'antisémitisme et de racisme s'il voulait faire quelque chose, entre guillemets, d'équilibré dans le logiciel. Il aurait pu recevoir des éducateurs, des enseignants. Enfin, il y a mille manières d'aborder le problème. Quand même, ça dit quelque chose de l'aborder par la question culturelle. Et au fond, la séquence qui est pensée pour la sortie de crise, entre guillemets, c'est une séquence qui est pensée visiblement avec la conférence des rabbins européens, mais qui du coup est une séquence religieuse. Bah, tu étais, Serge, aussi. Hein, voilà, on y était tous les deux. On est venu pour un prix sur l'antisémitisme. Moi, je vais dire qu'en y allant, j'y allais déjà un peu à reculons. J'y étais parce que je considère qu'il n'est pas question de boycotter d'aucune manière ni quelque chose qui vient de l'Élysée, ni quelque chose qui vient du rabbin. Donc j'y étais. Mais c'est vrai qu'on était tous un peu gênés parce que c'était pas le bon timing politique pour remettre un prix sur l'antisémitisme dans une séquence où on a des reproches à faire sur le traitement de la question. Et puis l'allumage de Hanouka, en revanche, que ce soit clair aussi pour chacun, c'était pas un geste politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, en y ayant assisté, et d'ailleurs je me serais peut-être pas autorisé à critiquer si j'avais pas assisté, parce que j'aurais pas su comment ça s'était passé ou autre, mais c'est pas un geste politique. Il n'y a pas de volonté politique, ni du président de la République, ni du grand rabbin de France, de déplacer le curseur sur la laïcité. C'est-à-dire que si on leur demande « Est-ce que vous êtes en train de faire un geste politique ?», ils auraient certainement dit non sur le moment. Non, mais oui, de fait, là, ça a été lu et comme ça, pour plein de raisons. Mais ce n'était pas pensé comme ça. Donc, sinon, ça aurait été... D'abord, on aurait été invité à un allumage, pas invité à une remise de prix sur l'antisémitisme. Enfin, et donc, on vit les choses un peu comme ça. Et donc, quand j'y vais le lendemain, je sais quand même que le mainstream communautaire est un peu différent. Après, comment on garde le contact ? Moi, j'essaie d'aller dans des communautés. J'étais samedi soir, par exemple, invité par la communauté de Maison Alfort pour un échange avec la communauté, une cinquantaine ou 80 personnes. J'essaie de garder ça. Après, il n'y a pas de... Enfin, chacun le fait à sa manière. Enfin, voilà.
Merci.
Vincent Payon.
Merci beaucoup. J'ai été très, très, très séduit par votre exposé parce que, l'air de rien, vous dites beaucoup de choses et ça ne m'étonne pas de vous. On est dans un contexte très difficile, exceptionnellement difficile, pour les Juifs de France, mais pas seulement. Pour les Juifs français, mais pas seulement. Au moment où on se parle, vous l'avez indiqué, mais c'est pas rien, y compris vous avez évoqué l'Escure, qui pourrait faire partie des démissionnaires. Nous avons une crise gouvernementale. Elle est larvée depuis longtemps, mais elle ne porte pas sur rien, elle porte sur l'immigration. Ce qui concerne aussi les Juifs de France, parce que pour peu qu'on connaisse notre histoire ici, mais je crois pour être venu et avoir parlé avec quelques-uns d'entre vous qu'on la connaît bien ici, les Juifs de France étaient, dans mon souvenir, je parle sous ton contrôle, Périne, mais ils devaient être 30 000 à la fin du 19e siècle, et finalement ils se sont enrichis d'apports successifs, vous voyez, dans les années 30 et puis dans les années 50. La façon dont nous traitons l'étranger et l'autre dans la conscience juive, c'est structurant de l'identité juive. Les questions d'immigration sont pour nous des questions terribles. Et on voit bien cette récurrence de ce thème depuis maintenant 20-30 ans dans la vie politique française, les blessures qu'il peut occasionner et les blessures qu'il va occasionner. Bon, ça fait une crise politique. Pour moi, ça n'est rien, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé en Israël, dont je pense, j'ai eu l'occasion de le dire aux amis qui vous entourent, qu'il est beaucoup trop tôt pour mesurer, parce que quand l'histoire se fait, ce qui est réellement en train de se produire, mettre des mots, chacun veut très rapidement tirer les analyses, mais que ce soit pour Israël, que ce soit pour le Proche-Orient, que ce soit pour les Juifs français, je pense qu'on ne mesure pas encore le changement, la nouveauté de ce qui s'est produit début octobre. Et qui continue de se produire, parce qu'il y a quand même une guerre, et il y a des victimes, on les nombre aujourd'hui à 20 000, il est assez rare dans notre histoire que nous ayons eu à faire ce genre de choses, et ça ne laissera pas notre histoire, y compris en France, inentamée. Alors j'ai beaucoup de soucis, d'admiration et d'espérance dans la génération que vous représentez. Parce que vous arrivez à un moment en responsabilité, qu'elle soit philosophique pour certains, qu'elle soit communautaire ou institutionnelle pour d'autres, qui va être un temps difficile. Et dans lequel, et je pense difficile, il ne faut surtout pas se masquer les choses. Pour la génération précédente, moi j'ai plus de 60 ans, ça a été beaucoup plus facile. On a vu les choses arriver, on a connu 67, on a connu 73, les familles juives françaises, pour une partie, savaient à peu près gérer les choses, y compris au sein de mon parti. Il y avait de grandes figures. Bon. Les choses sont progressivement, et depuis les années 2000, devenues très difficiles, sont difficiles pour vous. Alors là-dessus, je voudrais faire quelques remarques qui sont aussi des questions. Vous parlez, et à l'instant, Dan vient de le faire, de la communauté juive. Moi, je vous donne mon sentiment comme ça. En fait, vous le connaissez, mais je l'explicite. Je ne me suis pas ressenti comme juif français, responsable politique, particulièrement à l'aise au CRIF. Je l'ai rencontré souvent, parce que vous savez comment font les partis politiques, le mien était un parti de gouvernement, ils ont quelques juifs dans les instances. Ils disent c'est pas mal d'aller avec eux rencontrer les amis du CRIF. Bon, on a joué à ce jeu-là à quelques-uns pour rendre service, après j'ai arrêté. Mais les relations avec le CRIF ont été difficiles, et je me suis souvent posé la question de savoir est-ce que le CRIF représente, c'est une question que vous devez vous poser, que vous vous posez d'ailleurs, avec beaucoup d'intelligence. Quel juif je représente? Est-ce que je représente tous les juifs? Moi, j'ai connu beaucoup, beaucoup de juifs dans les 20 dernières années, y compris au sommet de l'État, parfois le CRIF ne le savait pas d'ailleurs, qui faisaient leur travail, qui n'étaient pas défendus par le CRIF d'ailleurs quand ils étaient attaqués sur les choses antisémites, parce qu'ils avaient de la famille qui était visée, mais qui ne se reconnaissaient pas, même quand ils avaient des dialogues avec les dirigeants du CRIF, ils en avaient, et pour cause, ne se reconnaissaient pas. Donc je pense qu'un des challenges que vous avez surtout dans ce moment, et ça va être très complexe, je vais dire pourquoi, c'est de vous adresser bien à tous les Juifs. Je dis bien à tous les Juifs. Et pas simplement à quelques communautés ou des gens qui veulent pénétrer le CRIF avec des systèmes de représentation que nous connaissons, que vous avez évoqués, mais qui ne sont pas toujours tout à fait représentatifs de toutes les sensibilités juives françaises. Donc ça, c'est une première chose. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Comment vous allez faire? Parce que moi, depuis que vous avez pris ces fonctions, je suis très sensible, y compris quand vous m'avez invité, où j'ai assisté à mon premier meeting de Sarkozy en direct au CRIF, qui était assez violent quand même. Mais j'ai vu que votre sensibilité, c'est essayer de réunir les différentes familles de juifs français. Il y a différentes familles, ce n'est pas nouveau. Mais ces dernières années, ça c'est votre tâche. Et surtout au moment où l'antisémitisme remonte, où nous avons ces difficultés, c'est une tâche très importante. Très importante. Donc, comment vous voyez ces différentes sensibilités? Comment vous voulez essayer de les réunir maintenant? Vous avez été confronté du golem aux amis de Zemmour à la manifestation que vous évoquez. Il va falloir retisser tout ça. On les a dans certaines synagogues que vous fréquentez, on les a en dehors dans certains groupes, et il faut faire avec et il faut faire devant. Donc ça, c'est un premier point pour moi très important. Comment vous voyez cette diversité? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Et comment vous comptez? Parce que vous avez dit quelque chose de très très important, que là aussi j'ai connu, qui moi m'a rendu assez malheureux. Je suis allé à quelques dîners du CRIF, évidemment. Puis, les choses se sont espacées. Se sont transformées parfois en meetings politiques, dont on savait quelques personnalités qui pouvaient dire des choses, est-ce qu'on les fait pour autant, etc. Bon. comment vous comptez organiser les rapports du CRIF, on va dire, avec... Et ça a été reproché au CRIF, vous le savez, ces dernières années, d'avoir été plus proche de tel dirigeant politique que tel autre politique. Je pense que ça a été une erreur. Je pense que ça a été une erreur républicaine, là, pour le coup. Donc comment, dans la suite de ce que vous avez dit, horizontalité, verticalité, vous comptez traiter ce problème? Et troisièmement, je suis très, très, très séduit par ce que vous avez dit sur l'horizontalité, même s'il ne faut jamais perdre la verticalité, et pour cause, hein, faut quand même être protégé. Mais cette horizontalité, elle fait défaut aujourd'hui, beaucoup plus qu'elle ne faisait avant. Pensons à des rabbis, des rabbinovitch, cette volonté à tout prix de la conscience juive française, des néers, l'accueil d'être dans le dialogue, d'être dans l'extériorité, d'être dans etc. Et donc, comment, qu'est-ce que vous avez en tête pour réorganiser ça? C'est vrai qu'on a eu la CGT dirigée par un juif, on a eu les premiers ministres socialistes juifs, on a eu, etc. Nombre d'organisations et d'associations, parfois laïques, qui étaient dirigées par des juifs, et que les choses ont changé depuis un moment. Donc comment vous voyez l'action qui peut être la vôtre concernant ce sujet? Et là-dessus, je voudrais faire une remarque qui ne vous aidera peut-être pas, ou peut-être qui vous aidera beaucoup. Et c'est un lieu pour le faire, en tout cas ici. Il me semble que la Shoah, oui, évidemment. Et pour l'identité de vieilles familles juives qui étaient en France, oui, parce qu'ils ont aussi de la famille. C'est pas le cas. Bon. Mais la conscience juive, elle va au-delà. Israël, oui. Et combien de juifs français ont leur famille en Israël? Donc vous avez raison, vous ne l'éviterez pas d'ailleurs, dans toutes les sensibilités d'Israël. Quand on est en relation, on a toutes les sensibilités françaises et toutes les sensibilités d'Israël. Mais je crois que le CRIF aurait intérêt, il l'a été, je pense à Jenberg que j'ai connu, la conscience juive, elle n'est pas uniquement centrée sur l'identité juive, par définition. Si le CRIF n'est que l'identité juive et la défense de... même beaucoup de juifs se sont détournés à cause de cela, de l'identité juive, d'un repli, comme on dit communautaire, dans le fond c'est une vraie question aussi. Mais porter la conscience juive, qui est une conscience aussi capable de s'exprimer sur d'autres choses que sur soi-même, ça me semble quelque chose de fondamental pour le CRIF, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus.
Merci. D'abord, sur un point, je pensais qu'au début vous alliez dire que vous aviez un problème avec le terme de communauté juive, qui moi m'interpelle quand même, je le dis parce que par facilité, mais... ça pose une limite, il y a un dehors, un dedans, alors que au fond, ce qui correspond mieux à la réalité, il n'y a pas de limite stricte, disons, puis on peut être un pied dehors, un pied dedans. Et puis il y a une question qui m'est souvent posée aussi, c'est de dire, mais est-ce que vous définissez en juif, enfin, est-ce qu'on dit juif de France, juif français, français juif? Et à cette question, moi j'ai choisi de répondre que, au fond, toutes les formules me vont, mais celle que je préfère, en vrai, celle dans laquelle je me reconnais profondément, c'est juif en français. Parce que je considère que c'est vraiment la construction linguistique, quasiment, qui fait que je suis juif en français, et que demain, même si j'habite à New York, à Tel Aviv, ou je ne sais pas où, je resterai un juif en français, de la même manière que les juifs qui vivaient en Turquie depuis 300 ans continuaient à être, au fond, dans la continuité de leur identité par la langue. Voilà. Donc, ça, et ce n'est pas qu'une manière d'esquiver la question sur français, juif, juif français, mais c'est quelque chose qui me paraît important parce que ça dit quelque chose du rapport des juifs à la société française. Concernant le point sur... la conscience juive. Vous avez raison. Moi, la manière dont je le vis, c'est de me dire que je dois rendre des comptes à deux mandants, d'une certaine manière. Le premier groupe, c'est évidemment les juifs en tant que tels. Je leur dois des comptes, d'une certaine manière. Mais le deuxième mandant, c'est l'histoire et les valeurs juives. Et au fond, parfois, l'histoire et les valeurs juives peuvent dire quelque chose de différent de ce que disent les juifs. Mais pour prendre un parallèle très simple, c'est pas parce que, 70% ou 60% de la société française est pour le rétablissement de la peine de mort, peut-être, si on l'interrogeait, que pour autant, un dirigeant politique qui veut représenter les Français se doit de se faire le porteur de cette revendication-là. Parce qu'au fond, il est porteur aussi d'une fidélité à des valeurs qui ont tranché cette question-là. Et donc, je me pose toujours cette question-là. J'essaie de ne pas être omnubilé par la question du référendum permanent des Juifs de France. Parce que d'abord, c'est impossible de savoir, de pouvoir les interroger. Donc, de toute façon, cette question est réglée par une impossibilité matérielle de les interroger et donc d'avoir un retour qui soit tangible et incontestable, scientifique. Bon. Et ensuite, je pense qu'il est faux, je vais dire philosophiquement, parce que je dois autant à l'histoire juive et aux valeurs juives qu'aux juifs eux-mêmes. Donc ça donne des sujets. Typiquement, il y a eu la position du CRIF qui a été très claire sur Éric Zemmour. Et c'est pas moi, c'était mon prédécesseur, Francis Khalifa, qui a été très clair sur le sujet, parce que les valeurs juives... L'imposait, il a pris cette position pour ça, pas parce qu'il a compté les gens dans les synagogues pour se dire il y en a plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Voilà. La même manière, j'étais amené à m'exprimer sur les positions de Smotrich ou de Ben-Gvir en Israël. Alors j'ai choisi la manière de le faire. J'ai veillé à ce que ce ne soit pas instrumentalisé et récupéré, parce que c'était aussi un geste qu'il fallait calculer. Mais je l'ai fait dans un texte que j'ai publié en février ou mars dernier. Je l'ai mis dans un texte dans le Jerusalem Post en anglais parce que je voulais que ça participe du débat dans le monde juif et en Israël. Mais j'ai refusé de le faire dans une tribune dans le monde parce que je considérais que c'est pas aux Français en général que je devais rendre des comptes de la position morale vis-à-vis d'Israël. Si je veux bien y participer dans le monde juif. Alors après. Ça a circulé quand même, hein, c'est accessible. Mais malgré tout, c'est aller le dire dans le monde, ça dit quelque chose. Ça dit, je prends à témoin la société française pour dire, regardez, moi, je vais critiquer. Donc, il y a la ligne morale, mais les choix qu'on fait sur les modes d'expression, ils disent aussi quelque chose de ce qu'on veut faire. Et puis, la question sur le dîner du CRIF et la proximité partisane et ce genre de choses. Moi, j'ai... Mais je peux me tromper, parce que chacun a sa sensibilité, a ses biais de perception, a ses biais de parcours personnel. Moi, je pense que la ligne des Juifs, ça doit être le parti de la République. Et c'est quand même... Dire ça, c'est pas mettre tout le monde sur le même plan. Parce qu'en fait, le parti de la République... Alors d'abord, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on définit comme étant la ligne républicaine. Mais enfin, chacun après mettra sa propre patte. Mais ça implique parfois de dire des choses. Donc effectivement, c'est ce qui fait que sur la laïcité, je me suis senti, entre guillemets, autorisé, parce que je pensais que c'était fidèle à ce que doit être le fil conducteur de la position politique juive dans la société dans laquelle on vit. Et donc, ça peut renvoyer des choses très violentes à certains, politiquement, y compris à des alliés ou des amis dans certains moments. Mais je pense que ça va être le fil qu'on doit suivre. Voilà. Donc typiquement, quand on renvoie... Le fait qu'une partie de la gauche a été traversée par des tentations, on va dire, communautaristes ou clientélistes, ça a traversé une partie de la gauche, ben, je pense que je le dis pas seulement parce qu'en tant que juif, ça nous menace, je pense qu'on je le dis parce que c'est une vraie, ça me paraît être une rupture avec le logiciel républicain classique et qu'on a une vraie légitimité à le dire en tant que tel. Mais... Bon, après, moi, j'échange avec des dirigeants politiques de gauche, de droite, sans problème. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des séquences durables, parfois, où ça marque. Effectivement, il y a eu des années longues où il y avait un vrai différent avec la gauche, qui a fini quand même par se régler pour partie. Enfin, avec une partie de la gauche, maintenant... La gauche elle-même est très divisée, donc c'est plus compliqué qu'avant. Mais on ne pourra pas éviter ce genre de situation. Je pense que ça arrivera nécessairement à certains moments. Sinon, c'est qu'on ne dit plus rien. Quoi. Mais il faut juste qu'on soit prêt à... D'abord, avoir de bonnes raisons de le faire quand on le fait et qu'on soit capable aussi de le dépasser le moment venu ou en tout cas de le justifier.
Merci. Merci beaucoup, Yonatan, pour ton exposé. J'ai une question un peu par rapport à la... au repositionnement auquel tu as été sans doute obligé depuis le 7 octobre. Quand on discutait il y a quelques années de cela, tu disais que tu voulais réorienter si jamais tu prenais la présidence du CRIF, donc c'est fait, le CRIF vers le franco-judaïsme, ce qui répond à la question de l'identité juive, parce que justement, ce qui me semblait très intéressant et très prometteur de ce point de vue-là, c'était que tu réinscrivais justement l'identité juive dans une histoire des Juifs de France. Et donc, je croyais que tu avais un calendrier en tête pour dire quelles étaient les grandes dates des Juifs de France. Et voilà, donc ça dit une espèce de co-appartenance entre les Juifs et la France, une espèce de réciprocité entre les Juifs et l'histoire de France, entre l'histoire des Juifs et l'histoire de France. Ça donnait une positivité, ça te sortait de la situation à être toujours sur la défensive vis-à-vis des Juifs et à être juste dans la lutte contre l'antisémitisme. L'histoire fait que les Juifs sont souvent obligés de lutter contre l'antisémitisme, et d'autant plus maintenant dans notre situation inédite, où l'épreuve est immense. Et en plus, ce n'est pas exactement que la lutte contre l'antisémitisme, enfin, c'est la lutte contre l'antisionisme. C'est-à-dire que là, ce qui est arrivé à Israël a démultiplié l'antisémitisme en France, en Europe, aux États-Unis. Et ça oblige, d'une certaine manière, quand même, à renouveler, à se repositionner dans ce lien singulier qu'il y a à Israël. Ça oblige à défendre ou à lutter contre, pas seulement l'antisémitisme, mais l'antisionisme. Donc ça oblige aussi à inscrire l'antisionisme dans ce franco-judaïsme, enfin, c'est-à-dire dans une lutte républicaine, un peu comme Blum l'aurait fait, c'est-à-dire inscrire le sionisme dans le prolongement du socialisme. Donc ça oblige le CRIF à inscrire la défense d'Israël dans une défense républicaine, du républicanisme. Donc ça serait ça que le franco-judaïsme aujourd'hui moderne serait obligé de faire. Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu peux articuler ça conceptuellement? Est-ce que les politiciens sont prêts à entendre ça?
D'abord, effectivement, j'ai été rattrapé par la question d'Israël, d'une certaine manière...
Ce n'était pas mon domaine d'investissement prioritaire en prenant la présidence du CRIF, en considérant qu'il y a beaucoup à faire pour renforcer ou réaffirmer l'ancrage historique des Juifs en France, toute cette co-construction. Enfin, voilà, bon, on ne choisit pas les circonstances qui surviennent. Et en l'occurrence, donc, la question d'Israël m'a rattrapé l'an dernier déjà par les débats autour de la réforme judiciaire qui se sont imposés à plein d'endroits dans les débats communautaires et dans le débat public français, et puis évidemment par le 7 octobre là, de manière très puissante. De la même manière, j'essaye de dépasser l'assignation victimaire, quoi, c'est-à-dire de pas être que dans l'expression d'une position, une position de victime liée à l'antisémitisme et enfin voilà, j'essaie de ne pas en faire des tonnes quoi, sur le sujet quand je peux ne pas en faire. Voilà. Maintenant, le rôle du CRIF, c'est comme la parole, c'est comme un CGT. Quoi. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, on entend le micro, les gens savent déjà ce qu'on va dire. De toute façon, évidemment, qu'on va condamner l'acte antisémite qui s'est passé le matin même. A priori, on ne peut pas dire le contraire. C'est notre fonction de le faire, mais j'essaie de créer d'autres temps, d'autres moments pour compenser ça. Sans l'annuler, parce que sinon je perds une partie de la raison d'être du CRIF. Donc j'essaie de trouver cette manière de faire. Après, sur la manière d'articuler la défense d'Israël dans un corpus républicain, il y a un écueil que j'essaye d'éviter. Il y a un truc facile que tout le monde fait, mais qui me paraît glissant et toujours un peu populiste. Hein. C'est tout le truc sur... le côté démocratie, terrorisme au sens brut, et puis en disant, voilà, ça tourne souvent dans le discours, où c'est entendu comme la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie islamiste, quoi. Donc c'est une question vraiment de degré, dans nuance, dans l'expression. Donc moi, j'essaye de raccrocher à la question des valeurs démocratiques ou autres, sans rentrer dans un truc qui soit complètement, qui a un déterminisme absolu, parce que sinon, il n'y a pas d'issue, quoi. Voilà. Mais c'est pas simple. Après, il y a quand même, il y a quand même des choses. Enfin, les Français, ils ont aussi largement un bon sens sur ces questions. On a mené des sondages. J'ai été surpris par les résultats. On a fait un premier sondage il y a deux mois. Enfin, donc deux semaines après le 7 octobre, on a fait un sondage. 65% des Français trouvaient justifié l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas. Bon. Donc un soutien assez large à une opération militaire, donc avec tout ce qui va avec le mot élimination du Hamas. On l'a refait deux mois après le 7 octobre, donc le 7 décembre. Je m'attendais à ce que ce chiffre ait chuté très largement après deux mois d'agitation sur les réseaux sociaux, de provocation d'LFI, d'images de Gaza dramatiques, malheureusement parfois. Voilà. Et en fait, ce chiffre, il n'a quasiment pas bougé, il est à 62%. Ce qui veut dire que les Français, ils sont assez hermétiques à tout ça. Ils ont compris que se jouait quelque chose qui les concerne un peu, parce que quand on les interroge sur est-ce que ça pourrait arriver en France, pour les deux tiers, ils disent oui, ça pourrait arriver en France. Donc il y a une forme quand même de perception, enfin consciente ou inconsciente, de communauté de destin malgré tout. Et ils s'identifient évidemment plus facilement aux Israéliens qu'aux Palestiniens, pour plein de raisons historiques, culturelles. Donc c'est, moi, c'est comme ça que j'essaie de le traiter, mais j'ai pas la solution magique. Mais je me méfie des trucs trop faciles, quoi. Ouais.
Merci beaucoup. Pour le moment, le séminaire penchait à droite, donc on va se recentrer un petit peu. Attends, à gauche. Ça. Bernard Cazes.
Oui, merci. Sur le sondage, comme vous le savez, il y a un effet générationnel assez important qui est constaté, qui est d'ailleurs un enjeu en tant que tel par rapport à ce que vous avez dit auparavant. Et justement, dans ce que vous avez dit auparavant, je voudrais croiser deux choses que vous avez mentionnées. D'une part, les fantasmes qui sont exprimés par différents interlocuteurs que vous avez rencontrés, et puis d'autre part, la notion de verticalité et d'horizontalité. Une manière de décrire les sociétés ou les groupes, c'est de dire que ce sont aujourd'hui des sociétés en réseau. Dans les réseaux, ce qui compte, c'est à la fois la densité des liens, mais également l'étendue de ces liens et la notion aussi de certains nœuds qui peuvent être plus importants ou moins importants que d'autres et sur lesquels il convient de jouer ou il y a capacité à jouer. Et dans vos références, et comment dire, à ce sujet, je crois que vous êtes représentatif d'un discours qui est souvent entendu à la fois dans la communauté juive en France, mais également en Israël, et qui a du sens, parce que c'est la réalité, qui est que les référents sont à trouver aux États-Unis d'une part, vous avez mentionné l'outreach, en Israël d'autre part, et d'ailleurs, quand ensuite vous avez mentionné un moment, vous avez dit Tel Aviv, New York, etc. Or, moi, je voudrais vous questionner là-dessus, sur la dimension européenne du judaïsme, et donc vous entendre sur le lien que le CRIF peut avoir avec des équivalents ou des semi-équivalents dans d'autres pays européens, et sur l'enjeu qu'il pourrait y avoir pour le CRIF, compte tenu de la taille de la communauté française, d'un aspect structurant sur les relations entre ces différentes instances ou représentations, sur des sujets qui, finalement, concernent non seulement la construction de la société française, mais concernent la construction de la société européenne en tant que telle, avec des soucis qui sont du même ordre, très souvent, et qui vont au-delà de la seule référence à la Shoah, et qui vont effectivement dans une projection vers le futur, c'est-à-dire quelle société européenne se décide, quels liens politiques doivent s'instituer entre des minorités et des États, comment ça se joue dans la Commission européenne ou dans d'autres instances. Voilà, c'est sur toutes ces choses-là que je voudrais vous interroger et vous écouter.
Jouer, c'est d'être un carrefour, un nœud peut-être plus dense que d'autres. voilà, et qui, pour lequel on n'a pas besoin d'être très nombreux, mais juste d'être au bon endroit, dans la bonne démarche. Concernant la question européenne, je veux dire, les Juifs de France, ce sont des bons Français, donc pendant longtemps, ils ne parlaient pas bien anglais, ils étaient peu investis dans les structures internationales, et donc on n'a pas investi à la hauteur à laquelle on aurait dû les structures européennes ou internationales. Donc le CRIF, alors de droit, je suis vice-président du Congrès juif européen et vice-président du Congrès juif mondial. Mais donc j'en suis membre depuis longtemps puisque dans mes fonctions passées au CRIF, je m'occupais beaucoup de l'international. Mais c'est vrai que on ne prend pas nos responsabilités, je dis communauté juive en général, à l'international comme on aurait dû. Moi, je prends un cas qui m'a paru très très parlant. On est la première communauté juive européenne. Quand il y a eu le départ des juifs du RSS, on ne s'est pas battu pour aller chercher des juifs du RSS pour qu'ils viennent en France. Les juifs américains, eux, ils n'ont pas eu de complexe, entre guillemets, vis-à-vis d'Israël ou je sais pas quoi. Ils ont considéré que c'était dans leur responsabilité ou leur intérêt d'offrir cette possibilité à des juifs du RSS et d'ex-URSS. Et nous, on joue peu de rôle, on a peu d'ambition internationale en tant que judaïsme français, alors que je pense qu'on a une légitimité et qu'il y a une attente pour ça très forte. D'abord, on est là, évidemment, de loin quand même, la première communauté européenne. Mais on est quand même dans le monde juif un peu en marge. Voilà, je le regrette beaucoup. Alors là, il s'avère que aujourd'hui, on avait pendant 2 jours à Paris les dirigeants de six autres grandes communautés européennes, puisqu'on a participé à la création d'un forum qui s'appelle le J7. Comme le G7, mais J7. Hein. J'étais très content du nom. Et donc le J7 réunit le CRIF et puis l'équivalent du CRIF aux États-Unis, dans le Conference of Presidents, en Argentine, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Et c'est intéressant parce que on a des échanges qui sont très différents de ceux qu'on a au niveau du Congrès juif mondial ou du Congrès juif européen. Pourquoi ? Parce que le Congrès juif mondial et le Congrès juif européen, par définition, l'essentiel des communautés, c'est des petites communautés, donc qui ont des problématiques qui ressemblent à celles de petites villes françaises. Parler avec la communauté juive croate, ils se posent des questions que doivent se poser la communauté juive de Brest ou de Narbonne. Enfin, dire comment on fait pour s'assurer que pour l'office, on ait quand même les fêtes, on puisse quand même... Donc, il y a des problématiques qui sont très différentes. Et puis, on a un autre sujet, c'est que moi, je m'en suis rendu compte quand on parlait des sujets de réforme judiciaire en Israël au Congrès juif mondial. Moi, ça me paraissait intéressant l'an dernier qu'on ait au sein du Congrès juif mondial une expression là-dessus. Sauf que, étaient d'accord avec moi les Belges, les Anglais, les Américains un peu, mais vous parlez à un juif russe de la question de la réforme judiciaire en Israël en disant quand même c'est important la démocratie. Bon, ça lui parle pas. Et en fait, à l'échelle mondiale, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent, il y a quand même plus de gens. En tout cas, plus de communautés, pas en nombre de gens, mais en nombre de communautés qui sont dans des pays qui ne sont pas des démocraties libérales que des communautés dans des démocraties libérales. Et là, l'intérêt de ce J7, mais ça peut être pour ça un mode d'expression intéressant pour nous, juifs français, voilà, c'est qu'on est avec des communautés qui nous ressemblent, donc grandes et issues de démocraties libérales. Donc il y a peut-être des choses à creuser. Mais bon, voilà. Après, j'essaye moi personnellement de jouer mon rôle dans ces instances internationales. On a au CRIF une personne qui est chargée de mission sur les relations internationales. Spécifiquement, on a une commission des relations internationales qui se réunit régulièrement. On a cette fonction régalienne au titre de la communauté juive d'une certaine manière. Mais je trouve que ça rayonne pas assez par rapport à ce que ça devrait.
Oui, merci. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et pourtant, je me pose une question, peut-être sur ce que pourrait être le nouveau rôle du CRIF ou le rôle de la communauté juive en France. Et je pense que la question essentielle, c'est effectivement la verticalité et l'horizontalité. Est-ce que vraiment on a intérêt à endosser le discours de l'horizontalité ? D'une part, je crois que ce serait une forme de délégitimation du CRIF. Ensuite, je me dis qu'il pourrait y avoir une inversion des rôles dans le meilleur des mondes possible, peut-être, entre le judaïsme et la République, c'est-à-dire que le judaïsme, comme il l'a fait à la fin du 19e siècle, finalement, fournisse un nouveau discours à la République, une nouvelle légitimité, un nouvel axe, qui serait dans l'inversion du regard qu'on porte sur la démocratie ou qu'on porte sur la République, à savoir arrêter de parler d'un pouvoir affaibli, arrêter de... bon, alors je vois Vincent rire parce qu'évidemment, il me connaît par cœur. Mais cette idée quand même d'affirmer tout ce que fait la République, tout ce que fait la démocratie. Et je dirais que si le CRIF veut continuer à jouer un rôle, il n'a pas intérêt à délégitimer la verticalité ni le politique. Au contraire, il a intérêt à, l'affirmer. Donc, et je relis ma question à la question, une autre question que je voulais vous poser qui me frappe beaucoup, c'est que quand on regarde ce qui se passe là autour de la dernière semaine et du débat à l'Assemblée, le discours général, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le RN va arriver au pouvoir ? Est-ce que le rôle du CRIF, ça n'est pas aussi d'inventer un autre discours ? Ou un contre-discours, c'est-à-dire finalement de lutter contre cette forme d'habituation ou de musique qui est en filigrane et de dire il n'y a aucune raison pour que Marine Le Pen arrive au pouvoir. On a encore 3 ans. Évidemment, on est dans une situation politique particulière. Mais si 3 ans avant, on se dit, bon, alors on va réfléchir à ce qui va se passer quand elle arrivera au pouvoir, on est fichu. Enfin, je veux dire, on rend les armes tout de suite. Donc l'idée, c'est, est-ce que le CRIF ne peut pas inventer, finalement, être force de proposition pour un nouveau discours, une nouvelle vision. Voilà. Après, si c'est démenti dans 3 ans par les faits, bon, voilà. Mais on pourrait... Il y a des armes. La démocratie, c'est quelque chose de positif. Elle a fait des choses positives. Et il faut... Et surtout pour les Juifs. Donc on a tout intérêt à l'affirmer.
Non, mais je suis extrêmement sensible à ce que vous dites sur les deux sujets. Sur le premier, moi, je suis républicain hyper classique, jacobin, comme on n'en fait plus. Je suis très peur de la décentralisation, parce que ça va produire à la fin du clientélisme. Enfin, donc je suis très attaché aux principes historiques classiques là-dessus. Et je pense qu'il faut les défendre et réaffirmer. Maintenant, je prends acte du fait qu'aujourd'hui, il y a... Et si mon objectif, c'est de défendre les intérêts des Juifs de France à moyen et long terme, disons, je prends acte de cette évolution de la société qui fait qu'émergent les lieux de pouvoir qu'il faut bien traiter. Et que le rôle du CRIF, c'est aussi de les traiter. Et que ce n'est pas en y étant aveugle qu'on va les gérer. Mais j'ai sur la vision de ce que doit être... de ce qui garantit le mieux la société française à terme contre tout un tas de risques de dérive, je suis complètement aligné avec vous. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs beaucoup dit lors du discours au dîner du CRIF, le premier que j'ai fait l'an dernier, avec une réaffirmation précisément là-dessus d'un discours très républicain classique et pour moi en point central le refus du défaitisme, du fatalisme. Et je trouve qu'il n'y a rien de moins juif que le défaitisme et le fatalisme. Je dis souvent... Qu'au fond, dans l'histoire juive de Hanouka, de Purim, dans l'histoire de la résistance juive, même dans l'histoire de la guerre des six jours, il y a quand même l'idée que même quand tout paraît compromis, on arrive à trouver un chemin et que le monde juif, il a toujours, dans ses valeurs et dans son histoire, défendu l'idée que c'était possible, quoi, là, et que... Et donc, on a la responsabilité de mener ce combat-là. Et c'est d'ailleurs, dans la communauté, c'est une des réponses que je donne sur la question du Rassemblement national, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, ça ne vous a pas échappé dans la communauté, sur le rapport au RN. Et moi, la raison pour laquelle je considère qu'on ne peut pas, aujourd'hui, certains disent qu'il faudrait leur dialoguer avec eux parce qu'ils vont arriver au pouvoir dans 3 ans. Et mon sentiment, c'est que le faire, ça participerait de le précipiter, en fait, de précipiter cette arrivée au pouvoir. Et donc, il y a tellement de choses qui sont en cascade si nous on le faisait que je pense que c'est risqué de le faire. Et puis la deuxième chose, c'est que, par ailleurs, effectivement, le combat commence à peine, d'une certaine manière. Enfin, on est en plein dedans, donc il n'y a pas de raison de considérer que tout est perdu alors qu'on ne fait que commencer la bataille. Donc, je partage comme vous l'idée qu'il n'y a pas de fatalité pour 2027, que pour l'instant, il y a encore une majorité des Français qui, quand même, se situe dans un champ républicain en sens large, une majorité courte, mais enfin une majorité quand même, et qu'on aura le devoir, de toute façon, sur 2027, de participer à ce combat-là. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu une séquence très médiatique avec Jean-Luc Mélenchon au mois de juillet dernier, au moment de la rafle du Veldiv, du discours que j'ai fait à la rafle du Veldiv. Et ce qui est ressorti médiatiquement, c'est une passe d'armes avec Jean-Luc Mélenchon, alors que mon discours était de dire, ce que la mémoire de la Shoah nous laisse en héritage, c'est quand même une vigilance absolue sur les risques politiques extrêmes, et donc, en l'occurrence pour 2027, le risque Rassemblement national, parce que, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon a un plafond de verre qui fait que... Peut pas être élu. Donc le seul risque politique 2027 réel, c'est le risque Rassemblement national. Et bon, je fais un développement là-dessus. Et dans le discours ensuite, j'attaque effectivement Jean-Luc Mélenchon, mais en disant que son attitude accentue ce risque. Parce que de fait, ces outrances rendent, aux yeux de beaucoup de Français, légitime le recours à l'extrême droite. Comme si ça devenait comme si l'extrême droite devenait la réponse légitime aux outrances de l'extrême gauche. Et c'est à ce titre-là que je pointe les choses. Et après, la séquence médiatique démarre comme ça. Mais elle démarre précisément encapsulée dans un combat contre le risque Rassemblement national en 2027, qui, pour moi, va être le sujet majeur qu'on va tous avoir à traiter ces prochaines années. Enfin, là, on est déjà dedans. Enfin, voilà.
Si je peux préciser une chose, pas un petit... D'une part, c'est quand on est dans l'action et vous allez vous retrouver dans des champs politiques, vous venez de l'évoquer, on nomme les gens. On en est toujours un peu malheureux après quand on présente des principes. Je vous dis ça parce que vous avez eu raison sur Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de difficulté entre nous. Mais ça pourrait concerner tellement d'autres, finalement. Vous voyez, quand on dit Madame Le Pen est trop faible là-dessus, mal, etc. Bon, donc vous allez vous retrouver, si vous commencez à faire du tir au pigeon, il faut se mettre au-dessus de ça. Vous en êtes très capable par les discours que vous tenez. Si vous entrez, immédiatement, vous allez être instrumentalisé par certains et mis dans des positions difficiles. Par contre, je reviens sur l'horizontalité. La question, elle est, j'y reviens, est-ce que nous pouvons nous exprimer sur la souffrance des autres, pas seulement sur la nôtre ? C'est ça la tradition du judaïsme français, si je peux me permettre. C'est pas uniquement de parler de sa propre douleur. Ça nous a peut-être coûté, d'ailleurs, historiquement. Mais il me semble que c'est ça. Est-ce que nous pouvons avoir quelque chose à dire sur les discriminations, sur la justice sociale, sur l'éducation, sur... C'est ça la question. Alors, on peut considérer, j'ai eu des discussions avec certains de vos prêtres, que ce n'est pas le rôle du CRIF. On peut le considérer. Et ce serait tout à fait... Bon, là, on peut répondre à cette question en disant, moi, je ne pense pas, mon rôle est étroitement de défendre. Mais on peut considérer aussi que le CRIF peut parfois s'exprimer dans des situations qui ne sont pas uniquement... antisémitisme, Israël, la Shoah, mais prendre des positions dans des grands débats de société. Et quand je parlais, Périne, d'horizontalité, tu le sais mieux que personne. Que ce soit des combats médicaux pour le droit des femmes, que ce soit des combats, et vous voyez ce qui se passe encore d'ailleurs aux États-Unis sur l'avortement, etc., que ce soit sur des combats de droit à, etc., les Juifs ont été présents. Vous le voulez ou pas, ils ont été présents. On ne peut pas dire l'émancipation, nous avons les premiers ministres. Ils ont été présents. Et ils ne se sont pas isolés de la société. Ils l'ont irrigué. Ils ont été en dynamique. Ils ont été en force. Et ils ont été, si je peux me permettre, parfois aimés pour cela. Quand ils se rétrécissent, qui ne parlent plus à d'autres gens qui souffrent aussi, qui ont que d'eux-mêmes et de leur souffrance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour aller plus loin, pour vous aider là, hein, et c'est du passé, donc on ne revient pas sur le passé, mais cette affaire-là, elle était plus lourde que ça sur le CRIF, pour des gens comme moi en tout cas, d'accord ? Puisque vous savez que je n'y allais plus et je n'y étais plus invité. Numéro 3 du gouvernement français est juif, il n'y en a pas eu beaucoup. Pourquoi ? Parce que je tenais le discours que je vous tiens là. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espérance de votre arrivée dans un contexte aussi difficile que celui que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il faut réunir les Juifs de France, très bien, et ça c'est vraiment une question très difficile, mais il faut se poser la question, est-ce que je ne vais intervenir que sur des sujets qui concernent, disons, la communauté, sachant quand même, puisque vous avez posé la question, il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas dans les communautés dont on évoquait. Hein, ça dépend quand on dit la communauté. Si on enrobe tout le monde, on se dit les communautés. Il y a des Juifs qui, par nature, mais ce sont des Juifs français. Bon. Et ça renvoie même à la question que je suis. C'est ce que Léon Blum allait dans une communauté. Manifestement, il avait choisi autre chose. Mais il a quand même, évidemment, été sioniste. Bon. Donc c'est ça la question. C'est, est-ce que vous pensez que c'est envisageable? C'est ça, c'est... Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas le rôle du CRIF?
Moi, je pense que c'est le rôle du CRIF, évidemment, d'incarner le judaïsme français dans
toutes ses dimensions, et donc aussi cette dimension altruiste, humaniste. Voilà. Il y a quelques marqueurs. Il y a eu quelques expressions sur l'Ukraine, sur le Haut-Karabakh. Voilà, maintenant c'est vrai que c'est pas le cœur du message, surtout dans une période comme celle qu'on vit, clairement, où on est plus auto-centré. Je pense que c'est important. Enfin, je fais le constat tout simplement, c'est que si on veut que. Si on prétend vouloir que des non-juifs viennent participer à des manifestations contre l'antisémitisme, il faut bien s'interroger pour savoir si nous, juifs, allons dans des manifestations pour d'autres causes à un moment donné. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Donc voilà. Alors, on le fait. Je ne peux pas dire que les gens sont animés par ça dans le monde juif. C'est vrai, on est dans une phase qui est plutôt une phase de repli. Une phase de repli, certains vous diront de ressourcement, pour ne pas le connaître négativement. Mais je peux concevoir que dans le temps long, il y a des phases de repli et des phases d'ouverture, qu'on soit en ce moment dans une phase qui est... Je ne permets pas de juger de manière définitive. Mais effectivement, moi, je serais plus à l'aise, et je pense qu'on aurait intérêt, même d'un point de vue purement tactique, au-delà de la question morale, à avoir plus d'engagement sur un tas d'autres sujets. Mais je vous donne un exemple concret, parce qu'on part de loin. On a fait les Juifs anglais sont venus à... Le Board of Deputies, notre équivalent anglais, est venu à Paris il y a quelques mois, et souhaitait aller à Grande-Synthe, voir les campements de réfugiés, enfin de migrants cherchant à passer au Royaume-Uni. Bon. Et donc, quelqu'un du CRIF a été avec eux, on a été avec eux. Mais il faut savoir que quand on a été, la moitié des associations qui travaillent sur place ont refusé d'accueillir la délégation parce que c'était une délégation CRIF, enfin parce qu'il y avait le CRIF. Et la première question qu'ils posaient, c'est quelle est votre position sur les Palestiniens? Non mais... Et c'est des associations tout à fait respectables qui font un travail local tous les jours pour nourrir les populations. Donc on part, voilà d'où on part. Donc c'est vrai que moi, on a initié quelque chose. Je suis très content qu'on l'ait fait. Il y a des liens qui sont restés d'ailleurs pour partie. Mais ça part de loin. Après, il y a des choses qui sont plus faciles, mais qui sont... évidemment que faire des choses sur les femmes iraniennes... C'est facile pour nous. Enfin, on ne pense pas contre nous-mêmes quand on fait ça. Ça rejoint un agenda politique évident. Donc on l'a fait, effectivement, au dîner du CRIF. On a remis un prix cette année à des associations qui travaillent sur les questions de femmes en Iran. Mais si je suis honnête, ce qui est intéressant, c'est les moments où ça coûte un peu. Parce que quand ça ne coûte rien, c'est simple. Donc il y a une question, par exemple, qui est symbolique, qui est importante, c'est la question arménienne, sur laquelle il y a une vraie difficulté, compte tenu de ce qu'a été la position d'Israël dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, compte tenu des difficultés en Israël même en ce moment avec le clergé arménien. Enfin, voilà. Et pour autant, je pense que sur ces questions, on est capable de faire un pas de côté. Donc typiquement, bon, évidemment, en reconnaissance du génocide arménien, ça va de soi en France, pour les Juifs. Mais cela dit, je parlais avec les Juifs américains, c'est quelque chose qu'ils ont fait que très récemment. Là, il y a une dizaine, c'est 8 ans, 10 ans, enfin, quelque chose comme ça. Donc j'essaie de trouver derrière de bâtir un peu des ponts à des endroits où on nous attend un tout petit peu moins, parce que la vraie difficulté, c'est que le CRIF, il est toujours là où on l'attend. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, on s'attend à ce que le CRIF dise ABC, on tourne la tête, le CRIF dit ABC comme prévu, comme attendu. Et c'est plus intéressant quand on est capable de faire un petit pas de côté ici et là, mais il faut le faire sans perdre non plus en route la moitié de la communauté.
Moi, je voudrais, comme il est de tradition, de remercier celui qui nous organise ces soirées, Alexandre, et ce qui est son implication. Je voudrais dire aussi que j'étais très fier de Jonathan Arfi, et il a dit ce qu'il fait, et je voudrais vous dire ce qu'il n'a pas dit qu'il fait. La communauté juive est très inquiète. Et à un moment donné, lorsque la communauté, et pour répondre à toi, Dan, est-ce qu'il va dans la base? C'est que j'ai un témoignage. Je viens te porter un témoignage. Il y a quelques semaines de cela, les dirigeants communautaires, les présidents des grandes communautés d'Île-de-France ont ramené l'inquiétude des communautés qui était de savoir les politiques ne peuvent pas nous défendre face à l'antisémitisme, la police n'en peut plus, l'armée ne peut plus. Les partis politiques traditionnels qui étaient la gauche à laquelle nous appartenons, les communistes, plus personne ne nous défend. Et si, c'était Le Pen qui allait nous défendre. Et Jonathan, il a fait office en rugby de première ligne, c'est-à-dire qu'il a pris les coups de présidents de communauté qui sont venus lui demander de cachériser Le Pen. Et avec beaucoup d'intelligence, il a dévitalisé cette demande hâtive avec une écoute de chacun, mais avec une réponse globale, c'est que, au consistoire, on donne des certificats de cacheroute pour la viande, mais moi, je ne vais pas mettre un certificat de cacheroute, je ne vais pas cachériser Le Pen. Et c'était très difficile parce que les gars sont venus demander ça. Et Jonathan, j'étais témoin, et je t'en félicite, avec beaucoup d'intelligence encore une fois et de finesse, a réussi à dévitaliser cette demande qui était précipitée. D'autre part, je voudrais vous dire quelle était l'inquiétude et ce que j'attends de Jonathan. On est proches, on peut se le dire, mais dans ce quorum de gens qui réfléchissent à ce niveau sur les problèmes du judaïsme, c'est qu'il y a des choses qui nous échappent et qui fusent sous notre nez et qui sont extrêmement inquiétantes. On parle d'antisémitisme, et l'antisémitisme, c'est quand, malheureusement, on attaque au couteau une directrice de crèche. Mais, ou alors une école, ou alors qu'on tague un restaurant, peu importe. Mais nous avons un antisémitisme qui est encore plus parlant, c'est que sur les 8 départements d'Île-de-France, il n'y a que 2 départements où il y a des enfants juifs dans l'école primaire. Et ça s'appelle l'antisémitisme, et personne ne s'en inquiète, et ça fait des années. Et c'est extrêmement embêtant, parce que depuis le 7 octobre, je fais partie du consistoire, nous avons dû payer les collages à 19 enfants des départements difficiles pour les rentrer dans des écoles catholiques, parce qu'on ne pouvait plus les laisser dans des écoles juives. Et ça, c'est un élément qui est resté sur la touche. D'autre part, j'assistais dimanche soir à un débat sur quelle chaîne, où il y avait Michel Onfray, qui avait 2 interlocuteurs, parce qu'Onfray, il a écrit un livre qui démonte l'existence de Jésus.
C'était sur CNews.
CNews, c'est ça? Ouais. Et un des interlocuteurs, je crois que c'est pas Christophe le petit-fils, mais c'est l'autre, qui vient et qui dit « La preuve que Jésus a existé, c'est que dans le Talmud, c'est écrit que c'était un pourri, on a bien fait de le tuer. Il a dit ça. Et c'est-à-dire, Vatican II s'est passé à côté, tout ça, et ça, c'est une bombe énorme, et personne n'a réagi à ça. Pas pour l'instant. Dans le débat de dimanche soir avec Onfray. C'était un interlocuteur qui avait à côté de Christophe Petit-Fils. Je vous donnerai le nom, monsieur le ministre, je vous donnerai le nom. Parce que j'étais étonné de cette bombe qui est passée et j'attendais que les gens réagissent. Devant le Rav Goldstein, je connais un tout petit peu le Talmud, je ne me rappelle pas avoir vu une chose comme ça. Et en fin de compte, ça c'est un strike, comme on dit en bowling, c'est-à-dire le gars il a fait tomber. Moi j'étais tout à fait retourné lorsque j'ai entendu ça. Et quand on parle du CRIF, c'est un endroit où on met tous les juifs. Et des fois, dans les juifs, on a l'habitude de savoir, oui, lui, il est intégriste, lui, il est très pratiquant, lui, il est extrêmement pratiquant, lui, c'est un ultra-orthodoxe. On se met des cases et on se saucissonne comme ça, alors que on ne peut pas toucher un juif qui n'est pas l'exemple du juif. Prenez Alain Jacobovitch, qui en est venu presque aux mains avec son rabbin à Lyon. Et Alain Jacobovitch, que tout le monde connaît, lui a dit « Monsieur le rabbin, ne critiquez pas mon judaïsme. J'ai ma manière à moi d'être juif, ne venez pas la critiquer. » Et pour terminer, je voudrais citer Maïmonide. Quand il y a 1000 ans de ça, quand on lui a demandé « C'est quoi la définition d'un juif ?» Tout le monde s'attendait, la barbe, le chapeau, les cacheroutes, les synagogues, du matin jusqu'au soir. Il a dit « Un juif, c'est quelqu'un à côté de qui c'est agréable et intéressant de vivre. » Alors, dans le CRIF, forcément, tous ces juifs ont de la place. Et je voudrais juste dire que lorsque nous avons reçu les Américains, le mouvement des juifs américains, il y a quelques années au consistoire, la première question qui a été posée, c'est qu'aux États-Unis, on lutte contre l'antisémitisme, et en France, il y avait déjà une crise sur l'antisémitisme. Il a demandé combien que vous investissez en France pour vous défendre, pour défendre les Juifs contre l'antisémitisme. Et peut-être que nous ne sommes pas assez équipés, peut-être que nous n'investissons pas assez pour défendre et réagir. Par exemple, j'ai porté une matière de dimanche soir, n'est-ce pas ? C'est tout frais sur cette réflexion qui est énorme. Mais par exemple, à la Grande Mosquée de Paris, vous avez 4 permanents qui passent leur journée à écrire des textes, à envoyer Télé 7 jours, Femme actuelle, Le Chasseur français. Ils passent leur journée à écrire des petits textes sur l'islam, comment qu'on apprend l'islam, etc. Et nous, au niveau de l'organisation du judaïsme, on a le CRIF, et bien sûr, mais après de ça, vous avez le consistoire, à côté de ça, vous avez... on s'est un peu éparpillé, et moi, je souhaiterais que Jonathan, avec ses qualités, puisse être le monsieur communauté, le monsieur du judaïsme, parce qu'il représente d'abord dans sa jeunesse, dans son ouverture d'esprit, dans ses qualités humaines, dans ses vertus, dans sa manière de voir le judaïsme. C'est vers lui, comme avant, vous savez, quand on jouait au basket, il y avait un pivot à qui on passait toutes les balles pour marquer. Eh bien, c'est vers lui que je voudrais envoyer toutes les balles pour qu'il puisse marquer les points de la préoccupation communautaire.
Merci pour ton jeu d'équipe. Non, mais dernier point, simplement sur le rôle des différentes institutions. Effectivement, en théorie, chaque institution a un rôle bien déterminé. Dans la pratique, il peut y avoir un peu de débordement des uns et des autres, c'est aussi un signe de vitalité. Voilà. Après, en France, on a historiquement sous-investi notre fonction, en tant que communauté juive, notre fonction politique. Parce que, sans doute qu'on en avait moins besoin, parce que la République offrait un cadre suffisamment sécurisant. Alors qu'aux États-Unis, au fond, chaque groupe humain doit devait faire son trou, si j'ose dire, enfin se battre pour exister et donc investir pour sa représentation politique, sa défense, son organisation. Voilà. Et donc les ratios, quand on regarde le montant qui est investi aux États-Unis par la communauté juive dans sa représentation politique, c'est très largement supérieur aux ratios qu'il devrait y avoir compte tenu évidemment du PIB américain et du nombre de juifs américains. Enfin, voilà. Donc c'est incomparable. Pour vous donner une idée, hein, le budget du CRIF, c'est 2 millions d'euros annuels, 2 millions et demi. C'est tout petit. C'est une dizaine de permanents. Voilà. Et donc c'est vraiment très modeste. L'ADL qui était à Paris, là, c'est 120 millions de dollars. Mais à côté de l'ADL, il y a la Conference of Presidents, il y a les GC, il y a l'American Jewish Congress. Donc en fait, le judaïsme américain doit investir. Il y a l'AIPAC. Le judaïsme américain doit peut-être investir 500 millions de dollars par an dans sa représentation politique. Quand on en investit, allez, deux au CRIF et considérer qu'il y en a peut-être deux encore ailleurs, enfin, voilà, on investit 100 fois moins, là, on devrait investir 10 fois moins. Voilà. Parenthèse économique refermée.
Gabriel Pachar.
Bonjour, merci pour votre intervention. Comment envisager un salut, fût-il politique, sans éducation ou plutôt rééducation à la métaphysique? Par là, j'ai l'impression que ce qui se cache derrière l'antisémitisme, c'est une haine de l'eschatologie singulière d'Israël. Et comme si cette destinée singulière donc, ne pouvait se vivre que dans la clandestinité. Et on a parlé tout à l'heure de l'allumage de la Hanouka par Macron et tout, comme si finalement l'objet cultuel devenait une bannière, oui, une bannière politique communautaire. Mais est-ce que cette politisation du problème au détriment de la métaphysique ne cache pas justement cette eschatologie d'Israël? Il y avait des références à Lévinas tout à l'heure qui m'ont interpellée. Je crois que dans Au-delà du verset, il a une expression qui est assez intéressante. Il parle d'Occident planétaire qui annonce l'avènement du Messie. Par là, il entend une sorte de Rome universelle où il y aurait un droit un peu impersonnel, une sorte de simulacre de bonté qui serait quand même nécessaire à l'avènement, enfin à la révélation, à la transcendance, à la venue de la transcendance. Je pense que la difficulté du politique aujourd'hui est qu'elle s'est interdite de parler de Dieu. Est-ce que le CRIF fait quelque chose pour défendre la transcendance si elle peut être effectivement défendue?
Alors, effectivement, j'ai dit au début que j'avais pas d'épaisseur talmudique, mais j'ai pas non plus d'épaisseur métaphysique ou philosophique. Cela dit, ce que je peux en dire, c'est typiquement le genre de question vers lequel il y a quelques années je me tournais vers Avishai. Enfin, l'approche du CRIF, elle est quand même très laïque. Et donc, la question de la transcendance, même si ça ne recoupe pas exactement la question religieuse, évidemment, quelque chose qu'on met à distance, ce qui n'empêche pas chacun, par ailleurs, d'avoir une vie spirituelle, religieuse. J'entends en revanche dans votre question, c'est, enfin, ça n'empêche pas d'avoir conscience et de défendre une forme de sagesse universelle, un peu d'ordre supérieur, disons, voilà, dont on manque beaucoup. Et moi, je trouve que un des messages que les Juifs peuvent porter dans la société française, c'est aussi un rapport au temps différent, prendre un peu d'avoir le sens du temps long. Dans une période où on est marqué par l'immédiateté. Voilà. Et on a peut-être cette responsabilité-là. Alors, ce n'est pas de l'ordre de la transcendance, mais ça s'en rapproche un tout petit peu. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut porter un peu plus. Voilà, une forme de sagesse qui doit nous amener à un regard un peu singulier. Mais c'est pour le coup en dehors du champ du CRIF quand on va au-delà.
Mais tu sais, Lévinas, que vous citez, avait cette belle expression à propos d'Israël, justement, une politique monothéiste. Il faut faire une politique monothéiste. C'est une expression extrêmement forte et qui fait converger votre demande et les possibilités de Nathan.
L'interlocuteur qui a prononcé cette phrase, j'ai quelqu'un d'autre qui a écouté cette phrase, s'appelle Jean Stone, il est philosophe des sciences. Je me livre aux philosophes. Voilà.
Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir par rapport à la remarque de Gabriel. Merci.
Oui, ben, peut-être, c'est une conversation qu'on a déjà eue avec Dan, et ça rejoint une très très belle communication de Christian Jambet l'autre jour au colloque des intellectuels juifs. Moi, je me demande si le rôle du CRIF n'est pas essentiel parce que, justement, le conflit aujourd'hui est sur un plan théologique et qu'il faut le remettre sur un plan politique. Et qu'à partir du moment où on est sur un plan politique, alors on peut discuter. C'est-à-dire qu'on peut accepter des désaccords, on peut engager un débat. Si on est sur le plan théologique, je crois qu'il n'y a rien à faire.
Pourquoi ne pas penser qu'il y a des discussions possibles au plan théologique ? Par exemple, les accords d'Abraham sont fondés sur ça, justement. Et c'est une question que je voulais poser, je ne sais pas si je peux prendre la parole.
Bien sûr, c'était dans le programme.
Parce que personne n'a posé cette question. Par rapport à la transgression, vous avez évoqué,
par rapport à Hanouka, moi, justement, ce qui m'a frappé, c'est l'autre aspect de cette transgression. C'était une double transgression, puisque, en fait, il y avait le grand rabbin comme représentant de la communauté juive. Et donc, il y avait une autre position que la vôtre. Alors que d'habitude, il y a une collusion. On pense que c'est un peu la même chose. Et c'est ça qui m'a fait question. Et c'est là-dessus que j'aurais voulu vous interroger, puisque c'est un représentant de la communauté. Et donc, quel est votre champ de compétences par rapport à ça? Et d'autre part, par rapport à ce que dit Madame Simon Naoum, je crois qu'il y a des discussions théologiques. Tout le Talmud, ça n'est que des discussions. Et pourquoi penser qu'avec le monde arabe, on ne peut pas avoir des discussions théologiques? Pour ça, évidemment, il faut être musclé. Il faut une musculature que beaucoup de juifs n'ont pas, non plus forcément, ou n'ont pas tous. Et d'autre part, parmi les, vous évoquez le colloque des intellectuels juifs, j'ai assisté à quelques communications, et il y en a une qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de Pierre Manant. Parce que justement, Pierre Manant répondait à beaucoup de questions, je vous invite à écouter ce qu'il a dit, mais répondait à beaucoup de questions qui se posent ici, et d'une façon très différente de la perspective qu'on donne maintenant. C'est-à-dire que si j'ai bien compris ce que disait Pierre Manant, il disait qu'il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas d'horizon dans l'horizontalité. Pourquoi ? Parce que les nationalismes européens, occidentaux en général, sont tout à fait différents du nationalisme juif, que lui estimait légitime. Puisque le débat était, enfin le thème de son intervention, c'était la force et la justice. Et donc il disait que, et là ça reprend quelque chose que vous avez dit, ce qui m'a intéressé, parce que la Shoah plane évidemment sur le CRIF, hein, l'ombre de la Shoah, vous avez évoqué, et lui, il l'a fait planer cette ombre sur la pensée occidentale et sur la politique occidentale, en disant aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux, ne peuvent plus fonctionner comme avant, ils se méfient d'eux-mêmes, ils se surveillent, ils s'empêchent, ils s'inhibent. Et donc, ils ne peuvent plus, en somme, faire la guerre, ils ne peuvent plus utiliser la force. Leur seul horizon, c'est la justice. Et il est allé même beaucoup plus loin, il a été beaucoup plus pessimiste. Il a dit, la seule chose, c'est l'élargissement. Il n'y a plus de frontières, c'est l'élargissement. Mais l'élargissement au niveau de l'horizontalité, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de géographie. Donc, il ne donnait pas d'avenir dans cette dimension horizontale. Et son regard était tourné justement vers ce nationalisme de survie auquel il donnait une légitimité et une force. Bon, je ferme cette parenthèse. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses et beaucoup d'attentes surtout.
C'est très intéressant. Sur le, enfin, on revient sur l'horizontalité. Il
Moi, j'évoquais la question dans la société française avec les équilibres du pouvoir tels qu'ils sont en train d'évoluer. Et c'est le constat que je faisais, ce qui n'est pas pour autant une célébration de cette horizontalité, loin de là. Je répète, moi, ça me paraît, je partage vraiment l'analyse que vous avez eue, Perrine, pas l'intérêt des Juifs, mais il s'avère que ça se passe sous nos yeux, donc j'en prends acte. Sur ce que vous disiez...
Re-théologiser la question.
Oui.
On est capable.
Re-théologiser, je crois assez peu au... Ah si, non, parce que vous me posiez la question sur le grand rabbin, oui, voilà. Okay. Oui, voilà. Le grand rabbin incarne une autorité morale et spirituelle importante, et il fait souvent une remarque qui, moi, que je trouve très juste. Il dit qu'il n'est pas... son intitulé de poste, c'est pas grand rabbin des Juifs de France, c'est grand rabbin de France. Donc il a vocation, à ce titre-là, s'adresser au nom du judaïsme à l'ensemble de la société française. Voilà. Après, la légitimité de l'expression politique de la communauté, enfin en tout cas, la communauté s'est choisi un mode de représentation politique qui passe par une structure fédérative avec sa démocratie interne, des élections au comité directeur, à l'Assemblée générale du CRIF, au comité directeur, enfin toute une dynamique institutionnelle démocratique qui fait qu'il y a une légitimité à la parole du CRIF sur le politique et que, il y a eu une forme de... ça s'est heurté, disons. Mais, transgression viendrait dire que l'ordre naturel serait que la parole de l'un... normalement, chacun est censé être dans un domaine un peu distinct. Il s'avère que là, ça a été à la confluence du religieux et du politique, du coup, par la question que ça posait. Mais en théorie, c'est pas censé se poser dans ces termes. Après... Moi, je suis, c'est vrai que je suis plus. Enfin, l'ADN du CRIF est un ADN très, très laïque, hein, on l'a dit. Et donc, on est assez à l'aise dans le fonctionnement républicain qui met le religieux de côté, pour dire comme ça, sans le nier, sans y être aveugle, mais en tout cas, qui ne donne pas une fonction politique.
Merci. Encore une question. Monsieur Simon Naoum.
Merci.
Lui, il s'appelle juste Naoum, le pauvre.
C'est pas grave, je suis très heureux d'être le mari de ma femme. Donc, je voudrais revenir au début de votre intervention. Et vous avez exprimé toutes les manières d'être juif en France, et vous avez conclu par le fait... de l'idée d'être juif en français, qui m'a beaucoup séduit comme vision. Mais moi, je voudrais témoigner d'une chose, c'est que le retour de l'antisémitisme, c'est le retour de l'histoire, d'une certaine façon, et que, pour mon expérience personnelle, et il m'a semblé en avoir des échos dans ce que vous avez dit, et c'est pour ça que j'en fais état, dans mon expérience personnelle, ce qui m'a surpris, c'est que, j'ai eu un croche-patte d'emblée dans la mesure où l'identité que je croyais avoir a été sapée. Je croyais qu'il n'y avait pas de difficulté d'être un juif en France, d'avoir un certain regard vis-à-vis d'Israël, et pour moi, tout me semblait en ordre. Or, les événements du 7 octobre, parce que les juifs qui ont été tués parce que juifs et non pas parce que israéliens, et par les effets que ça a provoqués en France, a fait que... Et si on ajoute à ça l'effet émotionnel de ce bouleversement, c'est-à-dire que, pour ma part, je ne suis pas resté serein. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre à ce moment-là, et je me dis, mais comment fait-il pour rester serein? Et finalement... Comment se fait-il que, s'il ressent comme moi l'incertitude que cette situation crée sur notre identité, comment est-ce que vous faites pour masquer et pour présenter face au monde un visage aussi clair ?
C'est une bonne question. D'abord, comme tout le monde, j'ai été saisi par une forme d'effroi et de sidération. Voilà, c'est sûr. Ce qui m'a personnellement aidé, c'est que, étant dans l'action, ça m'a forcé à surmonter ce sentiment-là. L'analyse que je fais, c'est que, qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est que le sentiment de sécurité profond des Français juifs vient de deux choses qui ont été ébranlées en même temps le 7 octobre. Il vient, et dans la foulée, il vient à la fois d'une république forte capable de juguler les poussées d'antisémitisme quand il y en a, et de l'existence d'un État d'Israël perçu comme suffisamment solide pour protéger ses citoyens, mais les Juifs du monde entier aussi, d'un retour des persécutions historiques. Et c'est comme si le 7 octobre, avec le séisme initial et les répliques antisémites dans le monde entier, les deux piliers avaient été secoués en même temps. Et donc on a eu une forme de faille, enfin d'abîme vraiment vertigineuse en chacun de nous qui s'est creusé d'un coup. Voilà. Alors, il y a une part irrationnelle, parce que rationnellement, l'État d'Israël, il n'est pas en risque existentiel, il est en mesure d'assurer la sécurité de ses citoyens, et il y a mathématiquement peu de chances que ce qui s'est passé se reproduise, et en tout cas pas à une échelle industrielle. Enfin, on peut rationaliser tout ce qu'on veut, mais on l'a ressenti, on a tous ressenti, comme si on était d'un coup projeté au 19e siècle, quoi. Donc, c'est-à-dire dans une société qui ne sait pas nous protéger de l'antisémitisme, mais sans État d'Israël, pour le caricaturer. Je pense qu'on est parti pour une lente reconstruction, parce que ce sentiment, on finira par le... Je ne doute pas qu'on finira par retrouver quand même quelque chose du sentiment de sécurité, il n'y a pas de raison, mais ça va être long, et il va falloir refaire le parcours que nos ancêtres ont fait, d'une certaine manière. Enfin, voilà, on va repasser par toutes les étapes de cette construction de sentiment de sécurité. Chacun vit les choses aussi à sa manière. Moi, j'ai été deux fois sur place depuis. Donc, je ne sais pas si ça a contribué à apaiser les choses ou pas. Mais donc, j'ai été, au bout de deux semaines après, à Kfar Aza. On a visité Kfar Aza avec une délégation de dirigeants communautaires. On était en même temps que le voyage le lendemain du jour où Yael Braun-Pivet y a été avec quelques députés. Et j'y ai été il y a deux semaines, dix jours, où j'en ai été cette fois-ci à Nir Oz. Voilà, deux choses très différentes. Mais dans tous les cas, c'est vrai que pour moi, ça a participé de la gestion du traumatisme, que d'aller le voir, voilà, de pouvoir aussi m'équiper pour... Que je dis souvent qu'on a une forme de négationnisme des temps présents qui se construit en même temps que l'information du massacre circule déjà le négationnisme qui va avec. Et donc pour ça, il faut aussi qu'on soit mieux armés les uns les autres. Et donc c'est pour ça qu'on a été sur place à deux reprises.
Oui, par rapport à ce traumatisme qu'on a tous subi et que vous avez parfaitement décrit, je voudrais citer encore le colloque où Danny Trump... Trump, je l'appelle Trump. Il serait choqué. Danny Trump. Il a finalement dit cette chose. Il a résumé... Enfin, c'est une formule que j'ai reprise en essayant de comprendre ce qu'il nous disait. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a expliqué. Je ne suis absolument pas d'accord. Et je suis plutôt d'accord avec Pierre Manant, qui a donné une autre interprétation. Alors, ce qu'a dit Dany, c'est que je fais j'arrive absolument pas à le nommer correctement. Et il a dit, au fond, c'est l'irruption de l'exil en Israël. C'est ça qui a été absolument la faille, enfin, qui a trompé, etc. Et Pierre Manant a dit exactement le contraire. Et j'ai trouvé très intéressant parce qu'il a donné une vision que les Juifs n'avaient pas, justement. Et il a dit, Et ce serait une erreur de projeter sur ce qui se passe en Israël la grille de ce qu'on vit dans nos démocraties européennes. Et donc, il expliquait bien qu'on n'avait pas la bonne grille pour comprendre ce qui se passait.
Israël rattrapé par la condition diasporique, en fait, fondamentalement. Mais après, ce qu'on en fera, je ne sais pas. Ce qu'Israël en fera aussi, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de débats sur le rapport d'Israël à son identité juive. Oui. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a rapproché la condition diasporique et la condition juive israélienne, parce que la communauté de destin s'est imposée à nous. Après, il y a un point, moi, que j'essaie de démonter, c'est décrypter, c'est la fausse causalité qui viendrait dire que les actes antisémites en France seraient la conséquence des images de Gaza. C'est tentant parce qu'il y a une simultanéité qui laisse penser ça, mais je suis convaincu que c'est pour l'essentiel faux et que l'antisémitisme, il est d'abord le produit de la désinhibition portée par le massacre du 7 octobre. Et j'en prends pour preuve que quand on regarde en 2012, après Toulouse, après Otsara Torah, il y a eu des actes antisémites. Pourtant, après Otsara Torah, il n'y a pas eu de réplique israélienne à Gaza. C'était une affaire française. Eh ben, on a quand même eu une réplique d'actes antisémites. Autrement dit, c'est la violence initiale qui, comme un séisme, qui génère ensuite un tsunami qui suit, des répliques. Voilà. Et on se trompe quand on lit ça comme les images de Gaza, parce qu'en fait, d'abord, ça donne une forme de justification, plus ou moins, qui est évidemment toujours un discours dangereux. Et d'autre part, on ne décrypte pas le fait que c'est le même phénomène, que c'est un prolongement. Les actes antisémites en France, ils sont, d'une certaine manière, un prolongement à une échelle évidemment très réduite de l'acte initial. Oui. Ouais, y a un effet de mimétisme, d'entraînement, de répétition.
Cela dit, pardon, il y a Rivera, on se souvient qu'il avait quand même fait ce qu'il a fait pour venger les enfants de Gaza.
Il y a les deux.
Il y a Kacher aussi, je crois qu'il évoque la question. Il évoque aussi la question de palestinienne.
Ouais.
Donc, pour moi, ce que ça résout quand même une fois pour toutes, c'est le débat sur l'antisionisme. Le prochain qui montera au créneau pour dire l'antisionisme n'est pas vraiment antisémite. Je pense que le débat théorique peut avoir lieu, le débat pratique est clos par la séquence, en tout cas pour quelque temps.
Avant de passer la parole à Vincent Bion, pour Eva, Pierre Manon sera très 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 probablement un de nos prochains intervenants.
Oh là là. Quelle nouvelle comme ça. Non, pour bousculer un petit peu quand même, parce que là on ne pense pas beaucoup contre nous-mêmes, et pour revenir au colloque, on est un peu loin de notre ami Wakenin. On a une question quand même, qu'on ne pose pas là et qu'on ne veut pas poser, dans le fond on a raison, pas maintenant. Mais on a une question profonde. Dès lors que Israël est un État-nation, que les Juifs de l'exil sont liés, vous venez de le rappeler, peut-être plus dans les moments tragiques, mais sont liés à Israël, et la communauté française très liée maintenant avec les départs. Donc vous gérez les deux. Il y a une question politique qui se pose en Israël. Elle se pose, et elle se pose à nous, et elle se pose pour le destin des Juifs. Tout à l'heure, il n'osait pas poser cette question. Mais notre ami qui était là, voilà, qui est parti de la Villa Gilet, là, que j'avais connu autrefois, la façon de conduire la guerre, ce qui a préparé, ce qui se passe en Cisjordanie, ça nous concerne aussi en tant que Juifs. Et nous sommes engagés après. Et les événements qui se produisent sur la terre d'Israël et qui nous touchent, sont liés aussi à des politiques. J'ai été très longtemps membre de la commission des affaires étrangères du Parlement européen. Il y avait quelques juifs quand même, un commissaire européen, des gens à la commission qui s'occupaient de la sécurité dans cette zone. C'était mon rôle. On avait des interlocuteurs qui nous disaient une chose systématique que vous avez dû entendre Jonathan, dans vos premières rencontres. On ne perd pas de temps, M. Peillon, à parler des Palestiniens, c'est un problème qui est réglé. Je parle des autorités israéliennes avec lesquelles je travaille. Enfin, c'est tout. Donc on a l'Iran, on peut avoir le Hezbollah, et puis, bon. Manifestement, il y a une erreur d'analyse. Il y a peut-être eu une erreur d'analyse sur le Hamas. Bon, hein, on peut aller... Donc toutes ces questions, elles sont pas... Celles-là, elles ne sont pas derrière nous. Ce serait une erreur, à nouveau, tragique, de penser que ces questions sont réglées. Et vous voyez bien, quand vous, maintenant, vous commencez à voir, vous commencez à assister aux débats qui ont lieu dans le cabinet israélien, vous voyez bien qu'il y a des sensibilités qui sont quand même légèrement différentes. Bon. Donc tout ça va se produire. Donc je crois, malgré tout, qu'on peut pas... La transcendance a sans doute un rôle à jouer dans tout ça. Pierre Manant a sans doute raison d'imaginer que l'Europe, etc. Peut-être, c'est une question qui se joue au théologique. Mais il y a du politique là-dedans. Il y a du politique. Et qui nous concerne, nous, juifs français, juifs... parce que c'est le fait que ces questions ne soient pas réglées qui pose des problèmes. Et quand vous avez 6 millions, c'est ça, de musulmans, puis il a dit quelque chose, Laurent, tout à l'heure, qui n'a pas été repris. On a un énorme problème générationnel. Parce que les plus jeunes ne sont pas sur les mêmes positions que les... Et donc là, on voit le travail qu'on a à faire, mais ce travail, il se dénouera politiquement. Donc, je voulais juste dire ça, parce que c'est comme tout à l'heure, si on ne dit pas ces choses-là, on va avoir un problème dans les temps qui viennent. Quand on est entre nous, on ne le rappelle peut-être pas assez. Alors tout à l'heure, tu disais, là je ne veux pas être sur le rôle du CRIF, c'est trop compliqué pour vous aujourd'hui, mais on voit bien que cette question est devant nous, y compris dans notre rapport à Israël. Et il faudra régler cette question et qu'on prenne position. Si les Juifs de France, vous parlez des Juifs américains, on voit le président américain, il prend position. Parce qu'il y a le jour d'après. Nous devons prendre position. Et si nous ne prenons pas position, nous aurons un grand problème. Bon.
Pour être franc, je commencerai toujours par dénoncer l'assignation des Juifs à répondre de ce qui se passe en Israël. Non, mais alors c'est vrai que c'est confortable. C'est le confort de la position diasporique. Non, mais je peux, en tant que juif français, on peut s'exonérer quand on veut de la question quand elle est embarrassante, parce qu'après tout, on n'est pas obligé d'y répondre. Donc je commencerai, et donc au fond, je commencerai toujours par interroger l'intention de celui qui nous pose cette question et de l'assignation à répondre à cette question. Après, mais comme je l'ai fait sur la question de la réforme judiciaire, évidemment que en tant que juif, on a quelque chose à en dire. J'essaie de choisir le cénacle qui me paraît le plus adapté pour le faire et qui me paraît le moins instrumentalisable ou autre. Parce que sinon, il faut être vigilant politiquement. Mais moi, sur le fond, effectivement, le Hamas a réussi à remettre la question palestinienne sur la table, là où, au fond, beaucoup de gens ont cru... comment dire, de bonne ou mauvaise foi, enfin, voilà, qu'elle était réglée, qu'elle était dépassée. Elle est maintenant sur la table. Alors, ce que ça dit, c'est que il faudra trouver une solution politique, et cette solution, évidemment, il y a la question des deux États, qui se repose. Et ce qui est terrible, le constat que je fais, c'est que la solution à deux États, elle est devenue à la fois indispensable et impossible. Et les deux sont en ce moment aussi vrais l'un que l'autre. Quoi. Elle est indispensable parce qu'effectivement, il faudra bien trouver une solution politique qui se réalise dans la dignité des Palestiniens, leur accès aux droits, enfin voilà, et qui permette à Israël sa sécurité. De l'autre côté, elle est en ce moment impossible parce qu'elle est, pour les Israéliens, en l'état inacceptable de toute façon. Donc ils ne prendront pas le risque... de toute façon, d'un État palestinien dans la séquence immédiate qui suit. Moi, ce que je considère que mon rôle dans la séquence avec les interlocuteurs français, c'est leur donner des outils de lecture. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est dans la psyché israélienne, il y a tel et tel élément auquel il faut être sensible. Enfin, j'essaie de leur donner des clés. Donc, typiquement, ce que je dis en ce moment, c'est toutes les questions sont légitimes et elles devront être posées à Israël et elles seront posées à Israël. En revanche, gardez en tête qu'il y a une différence de temporalité entre ce que nous vivons ici en Europe et ce que les Israéliens vivent. Les Israéliens se vivent comme s'ils étaient le 8, le 9, le 10 octobre, parce qu'ils ont encore des corps non identifiés, ils sont encore dans la phase pour eux première de la guerre, voilà. Et nous en Europe, on va trop vite, on va plus vite en tout cas. On a tendance à se poser les questions qui sont les questions d'après. Je suis assez convaincu, pour être franc, mais c'est une question d'analyse politique, mais je suis assez convaincu que de la séquence naîtra une reconfiguration qui laissera beaucoup plus de place aux partisans, on va dire, d'une solution pacifique, enfin au camp de la paix, pour le dire avec cette formule, qu'auparavant. J'en suis convaincu. Non, c'est pas qu'une espérance. Je suis convaincu parce que vous regardez d'abord les sondages. C'est-à-dire que dans les sondages, là actuellement, ceux qui perdent le plus en Israël, c'est l'extrême droite, l'ultra-droite, enfin voilà, qui sont complètement battus parce qu'ils portent une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé aux yeux d'une partie des Israéliens. C'est comme ça que c'est perçu. Et que par ailleurs, les Israéliens entendent le fait qu'ils ne peuvent plus échapper à la... Ils peuvent faire l'économie de la question palestinienne. Donc, je n'exclus pas que ça bouscule tellement le jeu que ça permette, paradoxalement, de sortir avec moins de radicalité à l'issue. Mais on verra bien.
Bernard, pour la dernière question.
Bon, je vais m'efforcer de ne pas faire de la géopolitique en disant que ce qui est important, qui se passe en ce moment dans le monde, se déroule dans la mer Rouge et dans le détroit de Bab-el-Mandeb. Mais pour revenir sur ce que disait Vincent, qui a oublié que je m'appelle Bernard et pas Laurent, mais le temps a passé, je voudrais justement revenir sur cette injonction à faire du politique, de la politique, mais peut-être pas au sens... seulement où l'entend Vincent, à savoir, il me semble qu'il y a deux manières de faire du politique ou d'exprimer du politique et qu'il faut prendre garde, me semble-t-il, à trop pencher dans l'un ou dans l'autre. Alors, je m'explique. Il y a une manière de faire du politique qui est du côté de la déploration, de la victime, de se rapprocher des autres victimes, d'évoquer la Shoah et notre propre histoire, etc. C'est important. Mais justement, il me semble que l'histoire juive nous dit et nous montre, et je crois que le franco-judaïsme nous montre ça aussi, c'est que faire de la politique, ce n'est pas seulement être dans la déploration, c'est justement être dans l'espérance, dans la construction. Et que, à ce sens... que ce soit les Rothschild, que ce soit Einstein, que ce soit Léon Blum, que ce soit la création d'Israël et le sionisme, montrent cette capacité des Juifs à être dans la construction. Et donc, il me semble important à ce que la balance soit respectée et qu'on exprime fortement cette double dimension. Et alors, pour finir dans le registre de l'assignation à Israël, je crois que une des pertes d'aura d'Israël dans la population occidentale au sens large n'est pas simplement liée à la question palestinienne ou à d'autres choses dont d'ailleurs beaucoup de gens se fichent au-delà de l'affichage. Elle est liée plutôt à autre chose. Alors, on peut dire qu'il y a une perte d'aura qui est faite, qu'il y a eu la période sioniste, socialiste, proche de la gauche, etc. Et puis ensuite, Israël est devenu plus, on va dire, entrepreneurial et capitalistique et plus proche de la sphère américaine. Donc, il peut y avoir un désenchantement par rapport à ça. Mais je crois qu'une des pertes qui a entraîné un désaveu dans la société occidentale d'Israël, et qui, bien entendu, rebondissent sur nous, c'est le fait que, à partir d'un certain moment, on a eu l'impression qu'Israël ne voulait plus la paix à toute force, et qu'il y avait une sorte de mise en pointillé, comme si ça n'était plus quelque chose de si indispensable. Alors, c'est peut-être faux, dire. Mais cette perception-là, je crois, existe. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de voir les pays arabes et les Palestiniens comme des obstacles à la paix. Et puis, à un moment, on a commencé à voir également que finalement, Israël était peut-être aussi un obstacle à la paix. Donc, les colons, etc. etc. Voilà. Bon, je m'excuse parce que ce n'est pas vraiment une question. Et donc, j'ai occupé la parole.
Non, je pense que Israël est passé par une période.
C'était un conflit de suffisamment basse intensité pour être socialement acceptable par la société israélienne. Voilà. Et c'est ça qui a volé en éclats le 7 octobre. Et donc, ça a remis la nécessité de la paix pour avoir la sécurité.
Cela dit, la lecture justement d'Israël par rapport à tout ça était que l'enjeu essentiel était l'Iran. Et on voit bien aujourd'hui que si le Hamas a agi, c'est parce qu'il y avait l'Iran.
Oui. Bon, après, pour terminer sur une note quand même optimiste...
Oui, moi, je vais juste... par rapport à ce que vous disiez, il me semble qu'il faut rajouter quand même le prisme idéologique aussi, qui est celui du décolonialisme, de l'idéologie décoloniale, c'est-à-dire qu'en réalité, le problème israélien est ramené à ceci de très simple, que Israël est une représentation des États-Unis, et que donc c'est un pays à la fois capitaliste et colonial, et que ce qui règne chez nous, c'est le décolonialisme. Donc voilà, et c'est là où c'est très difficile, parce qu'en réalité, comment est-ce qu'on fait pour ramener ça à la réalité ? Je veux dire, c'est là où, quand vous discutez avec les gens, finalement, je veux dire, la réalité de la géopolitique, de ce qui se passe sur le plan militaire ou sur le plan politique, ça n'a plus aucune importance.
Mais par contre, enfin, je reviens, alors vous avez tout à fait raison, mais je reviens sur ce point, sur la dimension politique de l'action à avoir. Il me semble que, justement, dans tout ce qui rappelle la participation, la construction des Juifs français à la société française, ou d'Israël à la société mondiale, est quelque chose qui nous sert au-delà, justement, de la déploration culinaire.
Oui, mais là aussi, alors je ne vais pas épiloguer parce qu'il est tard, mais il me semble qu'en France, il y a depuis le début des années 1960 une forme de déréalisation de la figure du juif, qui fait que finalement, à partir de 1972, on a pu mettre dans le juif le palestinien. Et que, je veux dire, on peut évoquer tout ça, l'histoire des juifs en France, etc. Mais ça n'a plus aucune importance, parce que le juif n'est pas le juif. Je veux dire, le juif, c'est plus rien. C'est une enveloppe dans laquelle on peut tout mettre, et on finit par mettre le palestinien, parce que de toute façon, ça rend service, puisqu'on inverse le discours et que la victime est devenue évidemment le bourreau. Mais donc c'est là où on a une grande difficulté, c'est-à-dire qu'on peut opposer des choses solides, mais ça ne marche pas. Je veux dire, c'est un discours qui n'est pas reçu. En fait, le juif, c'est une coquille qui a été évidée de tout ce qu'il y avait de matériel et d'historique du judaïsme.
Donc, je partage complètement ce point, et que c'est difficile de ramener au réel. On a beau gesticuler... souvent, il n'est vu que ce qu'on peut bien retenir, et donc, effectivement, un juif fantasmé...
Ouais, c'est ça. Qui n'a plus rien de juif.
Et non, pour conclure, parce que là, je voulais remercier Juliette Veil, qui est venue avec moi, qui travaille au CRIF, et voilà, qui était content de venir assister aussi à ce séminaire. Moi, je suis frappé aussi par une forme de retour à une normalité qu'on pensait effacer d'identité juive de combat, en fait, comme si la condition juive diasporique était nécessairement une forme d'identité juive marquée par la nécessité de la confrontation. Enfin, voilà. Moi, c'est quelque chose que auquel je me suis heurté au début des années 2000 avec la seconde intifada, et donc que j'ai appris à accepter en me disant que finalement cette nécessité du combat ou de la confrontation, elle me construit, elle m'enrichit, voilà, autant qu'elle me fatigue, mais
mais que c'est peut-être inhérent à la condition juive. Enfin, en tout cas, on ne peut visiblement pas y échapper durablement. Et puis, non, pour conclure, il y a un petit proverbe que j'aime beaucoup, qui dit en gros « à la fin, tout ira bien, et si ça ne va pas bien, c'est que ce n'est pas la fin ». Et je trouve que voilà, quand on a le rapport au temps long, c'est important. Voilà. Et donc merci beaucoup à vous. Enfin, j'ai été très heureux de cet échange.
Je suis vraiment très heureux pour cet exposé brillant que tu as d'être prêté à ce jeu de questions-réponses. Et en vérité, pour la première fois qu'on est un dirigeant communautaire, je suis très heureux que ça démarre avec toi cette période-là. Je me permets de signaler la prochaine séance qui aura lieu dimanche 14 janvier à 16h avec Jacob Rogozinski. Voilà. Donc, c'est appuyé par Monsieur Payon, donc c'est excellent, donc il faut que vous veniez tous. Même Madame Veil, du coup, je veux dire venir. Le
14
ouais.
Tu vois, non, mais... Le 6 février, c'est bon. Pour l'instant, j'ai
très très bien, vraiment.
J'essaie de me poser la question.